Alors, ce que je voudrais partager avec vous, c'est une suite. C'est la quatrième étude que je vous propose. Si tu veux mettre le... La quatrième étude sur l'annonce prophétique de Christ. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? C'est une réflexion, une étude sur tout ce que contient l'Ancien Testament, écrit des siècles et des siècles et des siècles avant que Jésus vienne et qui annonce sa venue. Et qui pour nous constitue un trésor de preuves, un trésor de compréhension pour que nous sachions, pour que nous comprenions, pour que nous acceptions, pour que nous soyons persuadés que Jésus est vraiment celui qui devait venir, le seul chemin. Alors, il y a des choses que cet Ancien Testament annonce et que nous ne voyons pas encore. C'est le sens du verset que je vous ai mis actuellement. Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Lui, c'est Jésus, que tout soit soumis à Jésus. Mais voici ce que nous constatons, ou plutôt ce que notre foi constate. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, quand il est venu sur terre, quand il a vécu, quand il est mort pour nous, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur, et ceci précisément à cause de la mort qu'il a soufferte. Alors nous avons étudié dans les trois précédentes études la façon dont les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue du Messie, ce personnage qui devait venir, et comment ces textes se sont succédés au fil des siècles. Il y a d'abord dans l'Ancien Testament le contexte, la création, le péché, la loi, car que, quand vous annoncez la venue d'une solution, il faut préciser le problème. Voilà, ça c'est, on pose le problème. Il y a aussi ce qu'on a appelé les types, c'est-à-dire des objets ou des situations ou des personnages qui par certains côtés nous annoncent Jésus et ce qu'il va faire, et nous permettre de le comprendre. Alors, on en avait un peu discuté, et je vous en avais proposé quelques-uns, vous en aviez proposé d'autres, et donc il y avait toute une liste, on va passer un petit peu vite. Et puis ensuite, il y a eu les prophéties. Les prophéties, c'est-à-dire véritablement des paroles qui annoncent quelqu'un qui va venir. Des promesses, en quelque sorte. Des promesses qui attendent la réalisation des promesses. Et quand on les lit comme ça, un petit peu au fil des textes, au fil des livres prophétiques de la Bible, on a l'impression que c'est un peu embrouillé quand même. D'où le sens de ma photo. Enfin, on a l'impression que ça va un petit peu dans tous les sens. Alors je vous avais proposé de les trier et de les regrouper. J'avais appelé ça des routes. Et si on regroupe ces promesses selon leur thème, on peut trouver trois routes principales. La route que j'avais appelée celle du Messie roi, fils de David, qui nous présente quelqu'un qui va venir comme un vainqueur, comme un roi, comme quelqu'un qui va régner, comme quelqu'un de puissant. Et puis, une deuxième route que j'avais appelée celle du Messie, serviteur sacrificiel, celui qui est au service, celui qui va se mettre au rang du plus faible, celui qui va apporter un sacrifice, sacrifice de sa propre personne, qui va mourir à la place des autres. Et le chant que nous venons de chanter dit « Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines. » On a fait le lien entre ces deux promesses. Et puis la troisième route, celle qui prend sa naissance dans le livre de Daniel, celle du fils de l'homme. Un fils de l'homme, quelqu'un qui ressemble à un homme et qui est vu par Daniel comme marchant sur les nuées du ciel à la rencontre de Dieu, Dieu qui lui donne la domination sur toute chose. Et c'est ce titre de fils de l'homme que Jésus va, dont Jésus va s'emparer et dont il va, qu'il va utiliser pour parler de lui-même. Le fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête, pourra-t-il dire. Voilà ces trois principales routes. Certaines sont terminées. Le Messie serviteur sacrificiel, Jésus ne s'offrira plus jamais en sacrifice, même si éternellement il ne peut nous apparaître comme étant celui qui s'est offert en sacrifice, mais c'est fait. Par contre, il est éternellement roi. Et il lui reste la route du Fils de l'homme de retour. Vous savez, on avait parlé d'une route allée, il va à l'ascension, il va vers son Père, et il lui reste la route de retour. Il va revenir, nous l'attendons. Il vient sur les nuées du ciel, dit le début de l'Apocalypse, et tout œil le verra. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de petites routes, ça c'est les trois grandes, de petites routes qui vont compléter celle-là. Je vous promets, c'est la dernière étude sur le thème. Alors pourquoi je les appelle petites? C'est parce qu'il y a peu de textes qui concernent chacune de ces petites routes, et souvent elles complètent, elles se rejoignent avec les grandes. Alors je vais vous parler de la plus ancienne. Alors, ça c'est un petit peu ce qu'on a vu. Les trois grandes routes convergent en Jésus. Celui qui est à la fois le roi, le fils de l'homme, le serviteur souffrant. La plus ancienne, elle commence très tôt. Elle commence en Genèse chapitre 3, verset 15. L'homme et la femme viennent de commettre une désobéissance alors qu'ils sont encore dans le jardin d'Éden, et Dieu va annoncer des jugements. Il va parler au serpent, puis à la femme, puis à l'homme. Et voilà ce qu'il dit au serpent, Genèse 3, verset 15. « Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. » C'est très court. Mais qu'est-ce que cela nous annonce? Ça nous annonce que le serpent sera vaincu un jour. L'Apocalypse nous révèle que ce serpent ancien, c'est le diable, Satan. Donc Dieu annonce que Satan, qui ce jour-là est vainqueur, puisqu'il a réussi à faire capoter toute l'humanité dans le péché, que Satan sera un jour vaincu. Et du coup, cette parole du jugement sur le serpent devient une promesse pour les humains. Qu'est-ce que Dieu annonce encore? Il annonce que cela se fera par la descendance de la femme. Curieusement, pas par celle de l'homme. Et que cette victoire se fera dans la douleur pour le vainqueur lui-même. Tu lui écraseras la tête. Pardon, elle t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. Le vainqueur de Satan sera donc un descendant de la femme. Est-ce que ce n'est pas une préparation de ce que Ésaïe va annoncer? Vous savez, on l'avait vu dans les premiers textes qui annoncent le Messie roi, fils de David, descendant de David. C'est Ésaïe chapitre 7, verset 14. Le Seigneur vous donnera un signe. La jeune fille, la vierge, sans l'intervention d'un homme, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est comme si déjà, dans la Genèse, longtemps avant, Dieu avait dit, avait préparé cette prophétie d'Ésaïe en disant oui, dans la descendance de la femme et de la femme seulement, l'homme y est pour rien dans l'histoire. Il y aura une solution. Jésus, nous l'avons vu, en tant que fils de la Vierge Marie, est vraiment celui qui a réalisé la promesse de Dieu. Descendant de la femme, il a vaincu Satan, mais au prix de la croix, de sa propre mort. Ça va ? Bon. On passe à l'autre. On va un petit peu plus loin dans le temps. Nous sommes après la sortie d'Égypte. 40 ans se sont passés pendant lesquels le peuple a traversé le désert. C'est l'époque de la vieillesse de Moïse. Et Moïse est inquiet. Est inquiet parce que le peuple qui est là ne connaît pas bien son Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire ce peuple quand lui, Moïse, ne sera plus là? Ce peuple avait supplié Dieu de ne plus lui parler directement, ça lui faisait trop peur. Alors, Dieu fait une promesse à Moïse. On trouve ça dans le Deutéronome, au chapitre 13 et au verset 18. « Je leur susciterai, il dit à Moïse, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. » Donc Dieu annonce qu'il viendra un prophète comme lui. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Là aussi, un texte court qui n'est pas repris ailleurs dans l'Ancien Testament. Et pourtant, cette promesse de Dieu d'envoyer un prophète comme Moïse n'avait pas été oubliée. Et les Juifs, pieux, à l'époque de Jésus, attendaient toujours le prophète. Jean, chapitre 7, verset 40, nous dit « Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, après avoir entendu ce que Jésus disait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » Et pourquoi ils disent pas un prophète comme il y en a eu d'autres? C'est le prophète parce que c'était ça qu'ils attendaient. Et Jésus sera vraiment le prophète. Et le prophète comme Moïse, celui qui parle de la part de Dieu, celui qui annonce sa parole, celui qui, comme Moïse, va donner la loi au peuple. Regardez le sermon sur la montagne. L'autorité avec laquelle Jésus parle. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens ceci, mais moi je vous dis, faites cela. C'est aussi celui qui conduira le peuple et nous-mêmes qui en faisons partie vers le royaume de Dieu. Ça va pour ce point-là? Bon, alors on continue. Il est beau, hein, mon prophète? Alors, quelque chose d'un petit, un point un peu plus compliqué. Dans l'ancienne alliance, il était impossible d'être à la fois roi et prêtre. Tout simplement parce que si vous vouliez être roi, vous deviez descendre de David, donc être de la tribu de Juda. Et si vous vouliez être prêtre, vous deviez être descendant de Lévi, donc de la tribu de Lévi. Ce n'est pas les deux mêmes tribus, il était impossible d'être les deux à la fois. Il y a une exception qui date d'avant la loi, très ancienne, et qui s'appelle, ce tome-là s'appelait Melchisédek, une figure très énigmatique, hein, dont on sait simplement qu'il était roi de Salem, probablement c'était l'ancien nom de Jérusalem, et qu'il était aussi sacrificateur du Dieu très haut. Et on sait que Abraham, c'était l'époque d'Abraham, se prosterna devant lui et lui donna la dîme de tout ce qu'il avait. On trouve cette histoire en Genèse 14, au verset 18. Bon. Et puis on n'en entend plus parler. Sauf que le psaume 110, un jour, Marc, ici présent, a protesté. Et il m'a dit... parce que j'avais annoncé un peu le début, ce qui allait suivre, hein, il m'a dit, tu as mis le psaume 110 dans les petites routes. C'est pas une petite route, c'est une grande route, parce que c'est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament. C'est ce que tu m'avais dit. Hein. Voilà, donc je... Bon, excusez-moi, je ne l'ai pas déplacé, je l'ai laissé dans les petites routes. On la fera élargir, si vous voulez. Alors, un texte donc dans le psaume 110 va reprendre cette figure de Melchisédek. Je vous le lis, psaume 110, de David. Psaume, oracle du Seigneur à mon Seigneur. Ça, c'est déjà un peu compliqué, il y a deux seigneurs, là, on verra ça après. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement. Au jour où tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, à toi la rosée de ta jeunesse. L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Ah, revoilà notre Melchisédek. Et ce psaume 110 est resté comme un gros point d'interrogation jusqu'à l'époque de Jésus, parce qu'on ne comprenait pas bien du tout et on n'avait pas beaucoup de moyens de comprendre ce que ça voulait dire que ce roi, puisqu'il est question d'un roi, domine au milieu de tes ennemis, mais qui est aussi sacrificateur à la manière de Melchisédek. Et en fait, ce n'est pas tellement Jésus qui va nous expliquer la chose. Le seul qui va nous l'expliquer, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui lui va reprendre cette figure de Melchisédek. Il nous explique que Jésus est à la fois roi et il est aussi le parfait sacrificateur, celui qui a offert une fois pour toutes le sacrifice parfait, celui que tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance annonçaient, mais sans jamais être parfait, la preuve c'est qu'il fallait recommencer, alors que le sacrifice parfait que Jésus a offert était vraiment parfait, et pour être parfait, il s'est offert lui-même. Il était à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Et comme ce n'était pas possible dans l'Ancienne Alliance, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique que ce n'est pas comme Aaron et les sacrificateurs, j'allais dire, normaux des Juifs, mais que c'est une sacrificature qui est bien plus ancienne que ça, qui est comme celle de Melchisédek. Alors vous allez me dire, bon, ça y est, c'est fait, le sacrifice a été offert, mais en quoi avons-nous besoin d'un sacrificateur maintenant ? C'est qu'en fait, le sacrificateur, il avait deux fonctions. Il avait la fonction d'offrir des sacrifices, mais il avait aussi la fonction d'être un médiateur entre Dieu et les hommes. Et Jésus est toujours et ce médiateur. On trouve ceci dans l'Épître aux Timothée, chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et pourquoi nous avons besoin d'un médiateur ? Lorsque nous parlons à Dieu, c'est Jésus qui présente notre prière au Père. Lorsque nous commettons des péchés, c'est Jésus notre avocat auprès du Père. Voilà pourquoi il est important pour nous de le considérer toujours comme un prêtre, un sacrificateur qui intercède pour nous auprès du Père. C'est un peu technique, je suis désolé. On passe au point suivant, d'accord ? Plus que deux. Alors là, j'ai trouvé une ancienne gravure qui montre Abraham. Pour un juif, montrer Abraham à genoux, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que pour un juif, il n'y a pas de plus grand personnage qu'Abraham. Or là, il le montre à genoux devant Melchisédek pour bien montrer l'importance de ce personnage. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ? Oint, oint, ça vous dit quelque chose ? Mais si, hein ? Mais si, oint, c'est pareil. Hein ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Il n'y a pas beaucoup de textes qui nous montrent Dieu en train de rire. Et Dieu se moque de la prétention de ces humains, même si ce sont des rois et des princes, de la prétention de ces humains à la puissance. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint, toujours le même mot, mais si, qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Au départ, quand on lit ce psaume, on peut dire qu'il peut parler de n'importe quel roi d'Israël. Dans certains textes, quand même, le roi d'Israël est appelé le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quel roi. C'est un roi qui va manifester sur la terre la colère de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, on envisage le retour de notre Seigneur plutôt comme quelque chose de gai, d'heureux, que nous attendons, que nous souhaitons. Mais nombreux sont les textes qui nous disent que le jour où le Seigneur reviendra sera un jour terrible, un jour de jugement. De jugement pour tous ceux qui ne l'ont pas accepté, tous ceux qui ne l'ont pas reçu. Ce sera un roi devant qui les rois et les juges de la terre devront s'incliner, mais aussi un roi qui peut rendre heureux tous ceux qui se confient en lui. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, nous dit que ce psaume a été écrit pour le Messie et que Jésus est bien celui qui est annoncé ici comme le roi, fils de Dieu. Je ferai appel de nouveau à vos souvenirs, à la première étude qu'on avait faite, toujours sur le Messie roi-prêtre, hein, la toute première annonce de promesse de ce roi qui va succéder à David, qu'on trouve dans le premier livre des Chroniques au chapitre 17, Dieu dit, ce roi futur, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Alors cette histoire de fils de Dieu, ça tracassait beaucoup les Juifs. Pour eux, un tel titre frisait le blasphème. Puisque depuis qu'ils étaient tout petits, ils avaient appris que ce qui faisait la fierté de leur nation, c'était de croire en un seul Dieu. Et voilà que ce Dieu avait un fils. Qu'est-ce qu'il fallait faire d'une notion comme ça? Et notamment, à l'époque de Jésus, les responsables religieux repoussaient cette idée. On trouve dans Jean 5, verset 18, cette phrase... Les Juifs cherchaient encore plus à faire mourir Jésus parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et pour eux, c'était un blasphème. Et Jésus a revendiqué ce titre. Il l'a revendiqué notamment devant les gens faibles, devant les gens simples. Un aveugle, par exemple. Jean 9, verset 35. Un aveugle qui a été guéri, il est allé se montrer aux sacrificateurs qui l'ont chassé en disant « Tu racontes n'importe quoi ». Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. On a vu souvent dans les évangiles que ce sont les aveugles les plus clairvoyants. Là, d'autant plus que, à ce moment où il dit ça, il voit maintenant. Heureux tous ceux qui se confient en lui, disait le psaume 2. Et Jean, à la fin de son évangile, ne dit pas autre chose. Jean 20, verset 31, vous savez, c'est un peu la conclusion de l'évangile de Jean. Elle est un peu curieuse parce qu'elle n'arrive pas tout à fait à la fin. Elle arrive un chapitre avant la fin. Mais la conclusion de l'évangile de Jean, Jean écrit, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et dernier point qui annonce la suite. Dieu lui-même qui vient. Alors on l'a lu dans le psaume 110, tout début, psaume de David, oracle du Seigneur à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ben voilà qu'il y a deux seigneurs. Et Jésus va poser la question aux Juifs de son temps. C'était pour eux une énigme. Voilà un psaume de David qui annonce le Messie, qui sera, on le sait par d'autres textes, un descendant de David. Comment se fait-il que David appelle cet homme-là Seigneur ? Dans la façon de parler des Juifs de l'époque, l'ancêtre était toujours plus grand que son petit-fils ou son arrière-petit-fils. Comment est-ce que David peut appeler son arrière-arrière-petit-fils Seigneur ? C'est une question que Jésus, vous savez que les pharisiens ont souvent posé des questions pièges à Jésus, et un jour Jésus leur a renvoyé la balle. Pour une fois, il a joué un peu au ping-pong. Hein, et moi aussi, j'ai une question à vous poser. Et ils n'ont pas pu répondre. La question est restée sans solution jusqu'à la venue de Jésus. Il fallait admettre que le Messie qui allait venir était lui-même divin. Et on peut trouver une confirmation dans le psaume 45. Beau psaume, le psaume 45. Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Parmi tous les humains, tu es bien le plus beau. La grâce est sur tes lèvres et l'on voit bien que Dieu t'a béni à jamais. Guerrier plein de vaillance, porte ton épée au côté. Oui, revêt-toi de ta magnificence, de l'éclat de ta gloire. Et dans ta gloire, remporte des victoires. Conduis ton char de guerre, défends la vérité, la douceur, la justice. Que ta main se signale par des actions d'éclat. Tes flèches acérées atteindront en plein cœur les ennemis du roi et tu feras tomber des peuples sous tes pas. Bon, on peut se dire, ben voilà, c'est un psaume d'admiration devant un roi qui est plein de gloire. Sauf qu'au verset 6, ton trône, ô Dieu, tiens, bizarre. Parmi tous les humains, tu es bien le plus beau. Et puis tout à coup, on lui dit, ô Dieu, ton trône, ô Dieu, subsiste pour l'éternité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Et là, ça se complique. Aussi, ô Dieu, virgule, ton Dieu a fait de toi un roi en répandant sur toi une huile d'allégresse. C'est une onction, hein ? En répandant sur toi une huile d'allégresse. On retrouve le loin, le Messie, hein ? Te préférant ainsi à tous tes compagnons. Du coup, il y a deux dieux. Ô Dieu, ton Dieu a fait ceci. Le roi qui doit venir est aussi appelé Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient marcher sur les routes des hommes. Et Jésus a vraiment été celui qui a pu dire « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Celui que Jean va appeler la parole qui était au commencement auprès de Dieu et la parole qui était Dieu, et qui a été faite chair et qui est venue parmi nous, c'est le tout début de l'évangile de Jean. Alors je vous sens perplexe. Il y a beaucoup de noms qui ont été donnés dans l'humanité pour de gens importants, de gens savants, de gens qui pouvaient être des guides. Bouddha, Confucius, Mahomet, Marx, non pas Merckx, Merckx était un cycliste. Freud, Hitler, Staline, et il y en aura sans doute d'autres. Ce que nous avons vu, les trois grandes routes et puis celle que je vous ai, dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est un véritable cahier des charges. Cahier des charges que l'Ancien Testament dresse en disant, voilà, celui qui doit venir, il doit être tout ça. Vers qui se diriger? À qui se confier? Quelle route suivre? Toutes les routes que nous avons vues convergent vers un seul homme, une seule personne, Jésus. C'est lui seul le Messie promis. C'est lui seul qui peut nous sauver, ayant été le serviteur qui s'est offert en parfait sacrifice. Ni Confucius, ni Bouddha, ni Mahomet, ni personne n'est mort pour moi. Seul Jésus l'a fait. C'est lui seul qui règnera toujours le roi éternel. C'est lui seul le Fils de l'homme parfait, le médiateur parfait. Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oh, il y a eu des grands hommes dans l'humanité, mais aucun qui ait pu la sauver, parce qu'aucun n'a pu vérifier en sa personne tout ce qui était annoncé. Et pourquoi tout cela? Pour nous conduire au Père. Jésus est donc bien le seul chemin qui conduit au Père. On l'a chanté tout à l'heure, il est la vérité, le chemin et la vie. C'est Jésus qui le dit dans Jean 14, verset 6, « Moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est en lui seul que nous voulons nous confier, c'est lui seul que nous voulons adorer, et il n'y a qu'à lui que nous devons obéir. Merci de votre attention.